Il est 7 h à Bruxelles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux que nous soyons ensemble ici ce soir dans une journée de pleine présence. Dans ce contexte, je voudrais ce soir vous présenter l'incorporation des trois dimensions de l'éveil. Je vais vous faire une brève présentation et nous aurons ensuite la possibilité d'un moment de partage, d'échange, de considération. D'abord, l'incorporation, c'est un thème que nous avons expérimenté, considéré aujourd'hui. Incorporer ayant le sens de faire corps avec, d'entrer dans le corps de l'expérience. D'entrer dans, on pourrait dire, la chair de l'expérience. D'entrer dans le vif, dans la pleine expérience. Donc, cette notion d'incorporation qui est d'entrer dans le corps physique, le corps de l'expérience et aussi le corps d'ouverture, si l'on peut dire. Ce dont je vous parle maintenant et ce dont je veux vous parler sont des références expérientielles traditionnelles. À la fois très ancienne et aussi d'une certaine façon très moderne. L'on pourrait envisager trois dimensions ou trois champs d'éveil, trois champs d'incorporation de l'éveil. Ces trois champs étant d'abord la présence, la pleine présence. C'est le premier champ et celui-ci a un niveau duel et un niveau non duel. Un niveau dualiste et non dualiste. Il y a une présence dualiste et une présence non dualiste. Très important. Et dans les pratique de mindfulness, awareness, pratique de méditation séculière, l'on aborde le plus souvent d'abord la pleine présence dualiste, pleine conscience, être pleinement conscient, être pleinement dans l'expérience d'une seule chose à la fois. Stabiliser son expérience en étant capable d'être d'une façon stable, attentif à une chose, une seule chose à la fois. Important. Une seule chose, 100%. Une seule chose, dans l'instant, expérimenter pleinement, complètement, on pourrait dire à 100%. Stabilisation de la conscience, stabilisation de l'esprit, stabilisation de l'expérience dans la capacité d'expérience attentive stable, plutôt que vaticinante, instable, batifolante, zappante, etc. Il y a la présence à quelque chose, conscience de quelque chose, qui est une expérience dualiste. Dualiste, c'est deux, sujet, objet, ici, là. Moi qui suis conscient de quelque chose, fût-ce de façon stable. Et la présence qui n'est pas celle de quelque chose. Présence dans laquelle je me suis fondu, je me suis absorbé. Parce que esprit, corps, esprit, expérience, non deux. Il y a là la dimension non dualiste de la présence, qui consiste à être l'expérience, sans observateur, ni observé. Donc, cette première dimension, celle de la présence, avec ces deux grands niveaux, dualiste et non-dualiste. Tout cela pourrait se développer, peut se développer de façon très vaste, mais le propos, présentement, est de brosser une vision synthétique et résumée. Le deuxième champ d'éveil, est la compassion. L'amour bienveillant, la bienveillance. L'état de présence peut s'envisager avec trois qualités principales, qui sont l'ouverture, présence ouverte, dégagée, la clarté, une attention claire, vigile, une clarté, tout cela signifie beaucoup de choses. Et aussi, dans la présence, est une bonté. Une empathie. Plus il est de présence, moins il est de séparation, plus il est d'empathie, de participation. Il y a l'empathie participative, quand on est en communion, que l'on participe à la peine, à la souffrance, aux difficultés de l'autre. Réceptivité, qui est une qualité de l'état de présence. Et la compassion. Nous ferons une distinction entre empathie et compassion, au sens où l'empathie est une réceptivité pleinement réceptif, on accueille. Mais la compassion, au sens fort, est plus que de la simple empathie, au sens où il y a dans la compassion un rayonnement, une action, une disponibilité de bienveillance, de bonté, d'aide. Cette distinction entre empathie et compassion est très importante. Lorsqu'il y a juste l'empathie, il peut y avoir une tendance à être en quelque sorte submergé par les difficultés, par la peine. Si l'on est dans l'empathie simplement en... Alors, je sais, là, je vais faire un petit écart de langage, en compatissant d'une façon passive. Il y a, c'est avéré chez nombre de pratiquants, un moment où il peut y avoir une sorte de submersion ou de saturation, burn-out. La compassion, dans son attitude bienveillante, aidante, disponible, va au-delà de l'empathie et amène une réponse. Une réponse adaptée, à une situation. On pourrait schématiser en disant que l'empathie est dans la réceptivité et que la compassion, la grande compassion, est dans la disponibilité. Pour ceux parmi vous qui ont l'habitude de la pratique d'accueillir, offrir, accueillir serait être en empathie et offrir serait être en compassion. Mais en tout cas, cette deuxième dimension qui est en un mot la compassion. L'attitude, l'état d'empathie et de compassion vient pour l'essentiel de l'état de présence. Ne vient pas d'un une considération mentale, mais vient d'une empathie avec l'autre, comme il est, ce qu'il est, tel qu'il est, avec ses difficultés, ses peines, ses souffrances. Et dans cette réceptivité, un souhait, un élan de libération de la souffrance, des difficultés et de ses causes. C'est ainsi que se dit la compassion. C'est le deuxième domaine qui s'inscrit dans la suite du premier. Le troisième domaine d'éveil, est la compréhension. Non, peut-être avant d'aborder le troisième, je vais vous demander de m'excuser, mais il fait très très chaud ici. La compassion a aussi deux niveaux, dualiste et non dualiste. Il est une compassion qui se développe en référence ou à la peine, à la souffrance des autres ou à la réalité de l'illusion et une compassion aussi qui rayonne naturellement, spontanément, sans référence. L'image en étant celle du soleil. On dit, tout comme le soleil éclaire et réchauffe naturellement toute chose et fait croître et pousser plantes, fleurs et fruits, cette compassion rayonne de façon non intentionnelle et naturellement fait croître, fructifier, mûrir les vivants. Une compassion non intentionnelle. Donc, ces deux niveaux. Il y a les deux niveaux dans le premier domaine, dans le deuxième domaine, et nous allons voir aussi dans le troisième domaine. Dans le troisième domaine, la compréhension. la compréhension de la réalité. Compréhension de quelle réalité? La réalité de ce que je suis et vis. La réalité de la vie, de ce qu'est, de comment est ce que je suis, ce que je vis, et de comment est et de ce que ce qu'est, ce que d'autres expérimentent et vivent. Cette compréhension, dans ce qu'elle a de plus essentiel, est le gnosis sutton, sache que tu es socratique, ou réalise la nature de ton esprit, l'injonction du Bouddha. Mais c'est aussi la compréhension des schèmes, des schémas cognitifs de l'esprit. C'est une science de l'esprit, une science de l'esprit-expérience, une science cognitive. Aujourd'hui, on parle même d'une neurophénoménologie. La frontière entre science contemplative, contemplative science, et science au sens plus classique, a aujourd'hui disparu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de rigueur, mais au contraire, qu'il est une rigueur, une logique, et un examen, une analyse, une observation qui va jusqu'au fond de l'expérience, jusqu'au fond des choses, jusqu'au fond du sujet. Jusqu'au fond du sujet. La compréhension, elle aussi, a deux niveaux. Un niveau relatif, dualiste, qui est, d'une façon très simple, l'intelligence de l'interdépendance. L'intelligence de l'interdépendance est une réalité. Il n'y a rien qui ne soit interdépendant. Ou dit autrement, tout est interdépendant. Toute chose, toute expérience, toute expérience de choses ou toute expérience de ce que je suis, tout ce qui se vit, tout ce qui se pense, tout ce qui peut s'expérimenter émerge dans un réseau d'interdépendance complexe. C'est la vision, c'est la compréhension de l'interdépendance universelle. C'est le niveau, on pourrait dire, relatif de la compréhension. Relatif dualiste. Dans l'interdépendance, il est différentes choses qui interagissent de façon interdépendante. Le niveau ultime de la compréhension est dans une expérience directe, immédiate, ce que l'on nomme classiquement l'expérience yogique immédiate. Une expérience qui est inconceptuelle, non conçue, sans conception, sans concepteur ni conçu, immédiate. Ça ne peut pas se concevoir. Mais ça se vit. Cette compréhension d'immédiateté. Donc, trois champs d'éveil dans la pleine présence, dans la pleine compassion, dans la pleine compréhension. Une remarque, compassion, compréhension sont traditionnellement en deux mots les deux pôles de la voie universelle. Ceux qui parmi vous sont familiers avec les enseignements de la voie universelle, le Mahayana, connaissent bien ces deux pôles, compassion, compréhension, compréhension, compassion. Dans une image, les deux ailes de l'oiseau de l'esprit qui s'envole au firmament de l'éveil. Et qui a besoin de ces deux ailes pour décoller. Et compassion, compréhension se réunissent ou sont réunies dans la pleine présence. Qui plus est, l'état de pleine présence. Le véritable état de pleine présence ultime est le lieu ou l'expérience de la compréhension et de la compréhension ultime, de la compréhension et de la compassion ultime. Tout à l'heure, nous l'avions évoqué cet après-midi. Il y a souvent des distinguos qui sont faits entre des voies d'amour et des voies de connaissance, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, etc. Ou voies d'amour, voies de connaissance, l'on peut effectivement partir de l'un, de l'autre. Mais bien pratiquer l'amour, compassion, l'empathie, compassion dans le don de soi et l'effacement de soi conduit à l'expérience non dualiste, tout comme la voie de la connaissance, de la compréhension, de l'ouverture non conceptuelle conduit elle aussi à l'expérience de non-dualité. L'expérience de non-dualité étant la convergence en laquelle se trouve réunie la perfection aussi bien de la compréhension que de la compassion. Alors, tout ceci a beaucoup de connexions, de références traditionnelles et même aujourd'hui scientifiques. Dans les référence traditionnelle. Vous êtes, je pense, tous familiers avec le triple entraînement, la voie de l'éveil comme triple entraînement. Entraînement en trois volets qui sont discipline, expérience profonde, et compréhension. Shila, Samadhi, Prajna, sanskrit. Shila, la discipline, quelle est l'essence de la discipline? En quoi consiste la discipline? Non. La discipline de vie, la discipline d'action est celle de la compassion non-violente ou d'une non-violence compatissante dans la règle d'or. Ne fais pas à l'autre la violence dont tu ne voudrais être victime. Donc, cette bonté, cette douceur, ce respect. Le deuxième apprentissage ou le deuxième entraînement est celui de l'expérience profonde et celui de la pleine présence. Donc, nous le connaissons sous les noms de mindfulness, awareness, pleine conscience, pleine présence, l'expérience profonde. Expérience dont la profondeur vient du retrait des projections. L'expérience superficielle et l'expérience projective, la carte conceptuelle qui nous fait lire le terrain de l'expérience. L'expérience profonde et l'expérience directe des choses telles qu'elles sont, dans le retrait ou la transparence des projections surimposées. Le terrain brut sans la carte. Et éventuellement avec la carte, mais sans être illusionné par la carte et en prenant la carte pour le terrain. Donc, cette expérience profonde Et le troisième apprentissage, que vous connaissez sous le nom de prajna, qui est la compréhension de nouveau de la réalité, interdépendante, il n'est rien qui ne soit indépendant. Il n'y a rien d'indépendant, d'autosuffisant. C'est pourquoi tout est interdépendant. Et avec aussi cette intelligence la plus profonde, qui est simplement connaturel. Sans concept, sans conception, qui se comprend en soi. Donc, ces trois apprentissages, discipline, expérience, compréhension, sont en rapport avec les trois champs d'éveil et aussi avec les trois dimensions même de l'expérience éveillée. Ancien pratiquant que vous êtes pour beaucoup, être familier avec l'expérience d'éveil comme ouverture, clarté et bonté. Ouvert, clair et une clarté qui est bonne. Une clarté qui est une énergie de bonté, ouverture, clarté, bonté. Ce que je brosse ici d'une façon un petit peu synthétique est la matrice de l'enseignement, la matrice de l'éveil, la matrice de la voix. Et il est pertinent de parler d'une matrice. Le mot matrice vient du sanskrit matrika. Dans des temps anciens, très anciens, il n'y avait pas d'impression, j'entends d'imprimerie. Et la tradition était principalement orale. Il est difficile pour nous aujourd'hui de sentir et de comprendre ce que pouvait être une tradition, une transmission orale. Imaginez. Qui n'avait pas de support textuel. Là, les enseignements du Bouddha se sont structurés, se sont inscrits au fil de différences que l'on a appelées des conciles. Mais au départ, la transmission est orale. Et la transmission orale est très, très importante parce que c'est celle qui vit en nous qui vit en nous naturellement et continuellement. Si l'on prenait un exemple contemporain, c'est notre mémoire vive. Non, on peut avoir accès à une mémoire morte, qui sont les textes, on peut aller chercher, interroger, database, GG, Google. Mais il y a une mémoire vive, une expérience directe dans la tradition, ou plutôt dans l'oralité, dans l'intelligence orale. Dans des temps anciens, celle-ci, justement, pour être aisée et opérative, était structurée en matrice mnémonimique. Ouf. En matrice qui était des paradigmes mnémonimiques, donc pour s'en rappeler, pour s'en souvenir. Et ces paradigmes mnémonimiques, si l'on peut dire, c'est matrice et celle de l'expérience même, de la structure même de notre expérience et de la structure même de la voix d'éveil. Avec cette structure ternaire que je vous ai un petit peu brossée, si je puis dire, présentée. Et cela est très important pour nous. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une tradition orale. Nous avons l'écrit, nous avons écrit sur des parchemins, nous avons écrit sur du papier. Aujourd'hui, nous écrivons sur du silicone. Et nous avons des méga-databases. Mais ça ne change pas le problème. Pour nous, nous, sujets, moi, ici, mon intelligence et ma compréhension et mon expérience dans cette intelligence et cette compréhension se vivent et se comprennent dans une matrice d'expérience, dans une matrice de compréhension, qui est cette matrice du Dharma, Dharma signifiant réalité, avec ses champs ternaires, que je vous ai sommairement présenté ce soir. Je crains Je crains de vous avoir déjà beaucoup parlé. Et je serais content à ce point que, plutôt que de parler plus, nous puissions avoir un échange. Et j'aimerais entendre de vous ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit, et que nous puissions échanger et peut-être préciser, voire compléter, en tout cas éclairer ce que je viens de vous présenter. Je vous propose d'abord un petit moment de contemplation, une petite pause. Donc maintenant, c'est vous qui avez la parole. Et s'il y a des remarques, des objections, des observations, questions, élucidations.
Vous avez expliqué donc qu'il y avait deux niveaux dans chacun des champs d'éveil, des dimensions d'éveil. Et mais par exemple, par rapport à la présence, la présence ouverte, au niveau dualiste, donc on peut focaliser par exemple sa présence sur 100% sur une seule chose. Et cet après-midi, enfin c'est aujourd'hui, me semble-t-il, on a plutôt essayé de pratiquer cette présence, mais ouverte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je trouvais ça plus difficile parce qu'effectivement, comme l'avait dit Jean-Paul aussi, parfois je saute un petit peu d'un sens à l'autre, je me focalise sur l'ouverture de la vue et puis de la sensation du toucher et de l'ouïe. Et je me demandais dans quelle mesure, quand on est un petit peu instable comme ça au début, il n'est pas préférable, parce que, est-ce qu'il est préférable d'abord commencer par s'entraîner à la présence stable sur un point fixe, ou est-ce qu'on peut s'exercer aux deux niveaux, je veux dire, d'emblée.
Les deux sont possibles, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Ça dépend des réceptivités, ça dépend des personnes. Et ça dépend aussi des traditions. Mais dans tous les cas, on a besoin à la fois de l'attention stable. S'il n'y a pas l'attention stable, voilà. Et zap, zap, zap. Et donc, l'attention stable et ouverte. L'attention stable seule peut devenir une focalisation, une concentration fermée. Alors, que la véritable présence, une présence globale, ouverte, totale, un éveil des sens, un éveil sensoriel, mais et de découvrir la possibilité de la simultanéité, de la stabilité et de l'attention vive, précise, claire, avec l'ouverture, le dégagement et le non-appui, de l'ouverture. Hi. Bonsoir. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou observations, s'il vous plaît?
En fait, vous avez parlé de la compassion à deux niveaux, et qu'il pouvait y avoir deux niveaux, un dualiste et un non-dualiste, et qu'il pouvait y avoir une certaine saturation en tant que pratiquant, en ne découvrant que le premier ou en ne pratiquant que le premier.
Que l'empathie.
L'empathie, donc accueillir plus. Plus accueillir. Et qu'un pratiquant pouvait se fatiguer, ou en tout cas arriver à une certaine saturation, ou à être submergé. Est-ce que vous pouvez juste préciser, ou je reviens juste sur ce point sans question précise, mais juste peut-être pour avoir une extension à votre propos.
Il y a différents niveaux. L'empathie. Il peut y avoir d'abord un niveau disons, assez grossier, qui consiste à prendre sur soi. À prendre sur soi toutes les misères du monde. Et à force de prendre sur soi, il y a soi, et puis il y a tout ce que soi y prend. Au bout d'un moment, ou bien soi meurt, très bien. Ou bien soit craint. Ça, c'est le... Et à ce moment-là, soit... Too much. Les différentes versions. Burnout, comme on dit. Donc, ça, c'est la captation active. Une autre forme plus subtile est une empathie authentique qui entre en communion avec la peine de l'autre, mais la simple communion, la simple participation à la peine, à la difficulté ou à la souffrance de l'autre. Alors, vous met bien en symbiose, en harmonie, en communion. Mais là aussi, vous entrez dans la souffrance, vous vivez la souffrance, vous êtes la souffrance. Et au bout d'un moment, il y a aussi cet effet saturation, de plus en pouvoir, d'épuisement, de burn-out. Et donc, ça c'est l'empathie qui est bonne, là. L'empathie est bonne, l'empathie est nécessaire, mais il s'agit de ne pas s'arrêter à la simple empathie, de pouvoir accueillir la douleur, la souffrance, la peine, la réalité de l'autre telle qu'elle est, mais aussi d'avoir que celle-ci ne soit pas prise et gardée. C'est un passage à vide. Et qui est ensuite une disponibilité de bienveillance, un rayonnement qui aspire et qui rayonne le bien, le bon. Et à ce moment-là, il y a une forme de sublimation de compassion, d'amour bienveillant, véritablement rayonnant, qui n'est pas, qui n'entre pas dans ce syndrome d'épuisement, de submersion, d'être grillé.
Est-ce que ça peut ressembler à l'humour? L'humour bienveillant? Ou est-ce que c'est trop restrictif sans doute? J'essaie de me faire en fait un...
C'est plus une bonté, un bon cœur. Mais un bon cœur qui ne reste pas passif. L'empathie simple et passive, alors que dans la compassion, il y a quelque chose de naturellement actif.
J'aime beaucoup la façon dont vous parlez de la compassion, parce que je trouve que c'est très aidant quand on est confronté à quelqu'un qui nous fait du mal. On est, plutôt que de rester avec l'émotion négative, de pouvoir se dire, développer le souhait que l'autre soit libéré de comportements destructeurs ou de comportements toxiques, ça permet, je trouve, de ne pas rester soi dans l'émotion négative, mais aussi de ne pas être trop pris dans l'exigence de devoir à tout prix aimer l'autre. C'est difficile d'aimer nos ennemis, les gens qui nous font du mal. C'est difficile. Je trouve qu'avec cette vue de la compassion, c'est quelque chose de plus accessible, de pouvoir se dire, avoir de la compassion pour les ennemis, pour les gens qui peuvent avoir des comportements qui abusent ou quoi, pouvoir se formuler à l'intérieur ce souhait qu'ils soient délivrés de ça et qu'un jour ils comprennent.
Et la pratique, indépendamment de toute considération conceptuelle, et tel que beaucoup d'entre vous, je pense, en ont l'habitude, en inspirant, accueillir, inspiration dans un accueil empathique, et expiration dans une attitude de disponibilité, de don et de rayonnement, d'offrande de ce qui peut être donné dans la circonstance et dans la situation. On dit accueillir, offrir, empathie, compassion, passif, actif, recevant, donnant.
Si je peux relancer, ça veut dire en fait que si on est en saturation quand on est dans l'accueil, enfin en tout cas si on peut l'être, ça veut dire que quand on donne, il y a vraiment un aspect où on se libère de quelque chose, soi-même. On se donne à soi en donnant à ce moment-là. Si on ne passe pas par le burn-out, ça veut dire qu'on est à ce moment-là plus léger, ou en tout cas moins engagé, ou moins accroché. C'est quelque chose comme ça. Parce que ça veut dire en gros qu'on se donne quelque chose à soi si ça va mieux, si on n'est pas en saturation.
Dans accueillir, offrir, on devient plus léger. On devient plus léger, on devient plus transparent. Et plus rayonnant. Et tout ce dont nous avons parlé ce soir trouve son fondement dans la pratique de la pleine présence. Une pleine présence qui a trois dimensions, qui sont l'ouverture, la clarté et l'empathie ou la bonté. pleine présence ouverte. Nous avons cet après-midi expérimenté cette ouverture environnementale, pleine présence ouverte. En même temps, clair, c'est pas vague, clair, vif, précis, intense. Et l'énergie de cette clarté est dans sa nature bonté, empathique. Ce sera, si vous voulez, notre conclusion, que tout ceci commence avec l'expérience de pleine présence, expérience de mindfulness, avec ces trois dimensions. Aussi, puisque nous avons des contraintes horaires, je vous invite un petit moment, petite pause, justement de pleine présence, avant de terminer par un souhait de dédicace. Et pour conclure, de se réjouir en faisant le souhait que ce que nous avons vécu ensemble soit un bienfait pour tous.
Nous ne vertus ainsi pratiquées et sans aucune amprobria dédié au mien de nous les vivres en la réalité en zone.
Bonsoir et au revoir.